Aujourd'hui, dans le cadre de notre cycle biblique, nous allons parler du désir. Et plus précisément, de l'épreuve du désir, au travers du passage de la lettre de Jacques qui nous est proposé et que je vous lis. Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, tout présent parfait, vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous aurons l'occasion au cours de l'émission de revenir sur ce qui fait la particularité de la lettre de Jacques au sein du Nouveau Testament. Disons juste maintenant que c'est un texte de sagesse. Pour l'instant, relevons ce qui a peut-être sauté dans nos oreilles à la lecture de ce court passage. Par exemple, heureux l'homme qui endure l'épreuve. L'épreuve ou la tentation, c'est le même mot en grec. Vous traduisez comme vous le voulez. Au fond, ça ne change rien. Mais ce heureux nous rappelle une interprétation habituelle, conventionnelle des béatitudes. Heureux, vous êtes de souffrir maintenant car vous aurez une récompense plus tard. Et dans notre texte, il est évoquer effectivement une couronne de vie. Alors, disons qu'ici et aussi dans les béatitudes de Matthieu et de Luc, on ne parle pas en termes de cause-conséquence, en termes de conditions. Après l'épreuve, il y a la vie, mais celle-là, l'épreuve, n'est pas la cause explicite de celle-ci, la vie. Souffrir d'une épreuve ne rend pas heureux, mais c'est plus subtil, ce type de béatitude indique, et on n'est pas obligé d'être d'accord, mais indique que celui qui est éprouvé est invité à se sentir heureux parce qu'il lui est annoncé la perspective de sortir de son épreuve. Certes, c'est un bonheur étrange qui est proposé ici, mais, et surtout si on se réfère au substrat hébreu ou araméen de ce mot « heureux » qui est avancé, l'invitation est clairement celle d'avancer pour se sortir de l'épreuve. De ne pas considérer l'épreuve comme un état, mais comme un point sur le trajet d'en sortir. C'est vraiment une sagesse particulière que de jeter sur l'épreuve une invitation au bonheur. Ce heureux est une prophétie dans l'épreuve, au sein même de l'épreuve. L'épreuve ne conditionne pas le bonheur, le bonheur n'est pas dans l'épreuve, mais plutôt que d'être accablé en sursignifiant le malheur, plutôt sentir, éprouver aussi le souffle, le vent prophétique de l'espérance. Certes, personne ne dit que c'est gagné, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux dans l'épreuve? S'auto-prophétiser du malheur supplémentaire ou sentir cette prophétie d'en sortir? Quel est le meilleur moyen d'avancer quand même? Alors ici, dans cet extrait de la lettre de Jacques, c'est tout simplement de la sagesse pragmatique. Et c'est aussi une sagesse de combat, comme nous allons le constater dans la dernière partie de cette émission. Alors maintenant, que nous avons essayé de comprendre mieux, je l'espère, ce que signifie ce mot « heureux », les éprouver, saisissons cette affirmation de Jacques. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Alors là, Jacques semble vraiment exagéré. La Bible regorge de textes très divers qui parlent d'épreuves données par Dieu. Des exemples. Juges 3, le livre des Juges au chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Deutéronome 8, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Deuxième livre des Chroniques. Ézéchias, réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Deutéronome 8 encore. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Apocalypse 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Proverbe 17. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Et bien entendu, nous avons aussi l'épreuve de Jésus dans le désert. Jésus passe une épreuve, il est poussé par l'Esprit dans le désert pour passer cette épreuve. Et même dans nos cantiques, cette affirmation a une bonne place. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Vous savez, dans nos psautiers, le psaume 118, vous vous rappelez ? Dans la suite des paroles de ce cantique, il y a cette petite phrase « S'il nous éprouve, il nous fait vivre ». Mais c'est une interprétation, car dans la version biblique, et même dans celle de Clément Marot, on y parle plutôt de punition, donc d'une conséquence, et pas d'épreuve qui, elle, serait la cause de quelque chose d'autre. Un châtiment, une punition, ça peut être douloureux, mais ça n'entre pas dans la même catégorie que l'épreuve, qui, elle, est censée nous examiner pour un passage éventuel vers autre chose. Bref, cette histoire d'épreuve, donnée par Dieu, et il faut le concéder, quand même bien attestée dans la Bible. Elle est aussi dans nos cantiques, quitte parfois à changer le sens d'un psaume pour le faire correspondre à nos questions. Et dans nos questions, il y a ce pourquoi, le pourquoi de Job. Pourquoi Dieu m'éprouve-t-il ainsi ? Mais voilà. Jacques dit non. Ce n'est pas Dieu qui donne l'épreuve. Et il le dit de sa propre autorité. Et il le dit aussi en se référant peut-être à l'autorité de Jésus-Christ. Et en cela, Jacques, dans la lettre de Jacques, nous sort d'une certaine mentalité archaïque. Jacques dit : ce n'est pas Dieu. C'est le désir qui nous éprouve, ce désir qui sera le thème que nous allons aborder après ce passage musical. Certains ont peut-être reconnu un passage composé par John Williams pour l'épisode 2 de Star Wars. Les étoiles. Vous savez que c'est l'origine du mot désir en français ? Attirance vers les étoiles, les constellations. Et puis vous avez entendu aussi un groupe appelé Ciné Trio, qui donne des concerts mensuels au Temple de Port-Royal. Concerts toujours assez bondés sur des musiques de films. Un trio qui réorchestre des symphonies pour un piano, un hautbois et un violon. Bienvenue de retour, welcome back dans ce cycle biblique autour de l'épître de Jacques, intitulé « Le désir, la mort et les étoiles ». Nous avons parlé de l'épreuve. Puis nous avons constaté que Jacques, contre une certaine tradition et aussi une épaisse mentalité, semble refuser que cette épreuve puisse être envoyée par Dieu. Mais alors elle est envoyée par qui ? Par notre désir, dit-il. Mais avant d'aborder de plein fouet cette question, rappelons un peu quelle est cette lettre de Jacques et comment elle se situe dans le cœur diversifié de notre Nouveau Testament, et on comprendra mieux comment Jacques parle du désir. La lettre de Jacques est une œuvre de théologie judéo-chrétienne. Elle n'a pas de destinataire particulier. Elle s'adresse, comme on le lit en son début, à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde. Martin Luther l'a qualifiée d'épître de paille, car selon lui, elle mettrait en valeur la théologie des œuvres et des mérites contre laquelle, évidemment, il a protesté. Et pour protester, il s'est appuyé sur les écrits de Paul. Paul, qui a été souvent mis en opposition avec Jacques. Disons juste ici que c'est une opposition presque erronée. Mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que Paul et Jacques n'ont pas la même philosophie sous-jacente. Jacques n'est pas du tout un théologien dialectique comme Paul qui dialogue avec lui-même ou avec des contradicteurs plus ou moins fictifs, et ce en permanence. Jacques n'est pas un philosophe platonicien comme Paul. Il n'entre pas dans la catégorie idéaliste. Pour lui, il n'y a pas d'un côté le territoire des ombres, et pour Paul ce seraient les juifs, les grecs, les esclaves, les hommes libres, et de notre côté celui des idées. Pour Paul encore, c'est l'événement de Jésus-Christ crucifié. Pour Jacques, ce n'est pas tout ou rien. Jacques, comment le dire ? C'est un sémite. Il est pour la solution de continuité. Il est pour le voyage. Il est pour l'interprétation. Pour Jacques, il n'y a pas de rupture entre l'ancien et le nouveau. Et d'ailleurs, quand on lit cette lettre, on pourrait la situer entre l'ancien, celui qui est appelé ancien, et celui qui est appelé Nouveau Testament. Pour lui, il n'y a pas de basculement ou de paradoxe. Avec lui, il n'y a pas de folie de la croix. Avec lui, on n'a pas à choisir entre l'être et le néant. Théologien juif et croyant au Christ, et en celui qui l'a envoyé, Dieu, pour qui il n'y a pas de néant, pour Dieu il n'y a que le réel, et dans ce réel, il y a la possibilité d'avancer vers la vérité. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jacques est beaucoup plus radical dans le sens classique, comme nous allons le voir tout à l'heure, mais aussi dans le sens des racines. Jacques est beaucoup plus terrestre, concret, sociétal que Paul et son projet. Il est peut-être comme Jésus d'ailleurs de continuer à éclaircir les nouveaux chemins d'interprétation de la Torah, ouverts par le Messie Jésus. Et Paul, malgré ses diatribes, n'est pas un moraliste. Jacques est un moraliste, dans le sens le plus noble du terme. L'épître de Jacques entre dans la continuité des textes de la sagesse biblique. Il la prolonge. Et il nous parle de l'épreuve du désir. On pense tout de suite au dernier commandement du Décalogue. Deutéronome 5. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On pense aussi au regretté René Girard et à son explication totalisante autour du désir mimétique, comme il disait. L'homme désire toujours selon le désir de l'autre. Voilà la cause de tous nos problèmes. On pense aussi, et bien évidemment, au désormais contesté Sigmund Freud, pour qui le propre de l'homme est le désir qui est au centre de toutes les structurations et déstructurations psychiques. Ce mois-ci, même le mensuel Philosophie Magazine fait du choix du désir son dossier, et il nous propose trois voies de traitement. La voie de la maîtrise, avec Épicure, la voie de la sublimation, encore avec Freud, et aussi la voie de l'affirmation avec Spinoza, pour qui le désir est l'équivalent de notre être. À propos de cette troisième voie, cette voie-là, on remarque qu'en hébreu, il y a pour parler de l'humain une catégorie très importante, qui est souvent improprement traduite par âme. En hébreu, c'est la nefesh, c'est la gorge en fait, c'est l'organe de la respiration, qui en est venu rapidement à désigner tout appétit et tout désir, et finalement en est arrivé à désigner, à recouvrir tout le moi. Notre désir, c'est notre âme, c'est nous. En grec, cela se traduit par psyché. Si nous-mêmes, si c'est nous-mêmes, le désir, la nefesh, pourquoi Jacques affirme-t-il ceci ? Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. D'abord, rappelons que Jacques écrit en grec. Et en écrivant en grec, il transporte du sens. Il transporte, il charrie des sédiments philosophiques qui traînent. Et dès lors, il charrie cette méfiance héritée de Platon et de ses successeurs concernant le corps. Il transporte les idées de séparation entre le corps et l'esprit. Certes, en tant que sage juif, il ne pense pas cela. Mais en grec, déjà, il utilise le mot epitoumia, convoitise, désir, qui vient de notre mot grec toumos, qui signifie passion, fureur, lequel vient d'un verbe racine touo, qui signifie, évidemment, tuer. Nous, les Français, donc, nous avons le mot désir, dont l'étymologie est beaucoup plus sympathique, puisqu'il vient d'étoiles, de constellations, désir, desiderata, sider, sidéral. Mais en grec, il y a cette idée de tension vers la mort, et dans sa phrase sublime et terrifiante, le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. Jacques, en fait, en disant ça, ne fait que de l'étymologie. En résumé, le désir mène à la mort. Diantre, comment Jacques, pour qui la nefesh est le propre de l'homme, peut-il abonder dans ce sens terrifiant? Mais tout simplement parce qu'il faut lire ce qui précède dans notre texte du jour. Toujours signé trio, et là, ce coup-ci, c'était la musique de James Bond. Avant notre passage, Jacques écrit que le frère de basse condition mette sa fierté dans son élévation, et le riche au contraire dans son abaissement. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Jacques est un écrivain juif assoiffé d'égalité. L'égalité qui est la clé de voûte de la Torah pour qui, devant Dieu, tout le monde est égal. Élévation du pauvre, abaissement du riche, Jacques ne supporte pas le faussement de la balance, la distorsion, l'évacuation du projet de Dieu par le comportement de certains. Et oui, avant ses considérations sur le désir, Jacques évoquait les riches comme figure de l'insatiable convoitise. Quand il parle de ce désir qui va vers la mort, il parle bien, et c'est très clair, de cette convoitise-là, agressive, permanente, prédatrice, qui ruine la création, qui se fiche de la Torah, qui décrète que dans cette convoitise-là, c'est le bon. Il évoque la lente et inexorable conduction vers la mort qu'implique ce comportement généralisé et mimétique de convoitise. Ce début de Jacques est simplement un midrash, mot de l'exégèse juive qui signifie interprétation en profondeur, un midrash du commandement de la convoitise. Jacques ne fait pas de philosophie, il fait de la morale. Mais il utilise les mots de cette philosophie pour parler du concret de ce qu'il considère comme une dérive totale du projet de Dieu. Une société basée sur la convoitise généralisée, convoitise, désir, qui amène à la destruction. C'est le thème majeur de cette lettre de Jacques qu'on retrouve dans tous les chapitres. Et voici quelques citations. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitise et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain, vous n'êtes qu'un peu de brume. Et vous, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle va dévorer votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Alors, bien sûr, je pourrais maintenant faire le lien sur notre société qui, lors d'une pseudo-révolution, il y a environ une quarantaine d'années, a introduit le désir comme une idole, qui a sacralisé le moi désirant, en faisant de celui-ci l'aune de toute chose, le centre de la morale. Ce qui, paraît-il, nous conduit tous à l'effondrement, si toutefois, nous ne prenons pas la peine de nous réenraciner dans la morale de Jacques, et dans la morale globale biblique, équivalente finalement à celle de Jésus qui prêche, pour aller retrouver notre moi qui, certes, et cette néfèche, cette âme désirante, mais qui peut désirer aussi autre chose que le désir lui-même, autre chose qu'elle-même, qui peut aussi désirer bien mieux que tous ces produits de substitution à Dieu. Dieu qui est la raison même de l'existence de cette âme conçue en nous pour que nous puissions aussi et finalement désirer, aspirer à Dieu pour que nous puissions aller vers ce Dieu qui, lui seul, peut réorienter notre néfèche, notre désir, notre âme, que nous croyons condamnée au manque et à la soif éternelle, l'orienter vers des endroits où cet esprit souffle, ce qui nous permettra de relativiser bien des choses et ce qui nous conduira à ne plus supporter une société qui s'enferre dans la sacralisation de la convoitise et qui en fait la clé de voûte de son système, son moteur, ce qui va nous conduire peut-être à nous battre afin que collectivement nous sortions enfin de cette épreuve épouvantable qui nous a transformés en marchandises, ce qui nous conduira peut-être à saisir le bonheur d'advenir dans le commencement de ce combat, combat dans lequel nous sommes précédés par Jésus lui-même, qui a combattu lui aussi pour réhabiliter l'humain qui est manipulé dans sa capacité à désirer. Et puis, enfin, pour que nous puissions réentendre serein la fin de notre passage du jour dans cette belle lettre de Jacques, écrite pour nous tous, égarés, assoiffés, dispersés sur la terre. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, tout présent parfait, vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures.